Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio Cessa la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans Cessa la France, l'émission du savoir-faire français. Il est midi 02 et on vous propose justement de découvrir ces entrepreneurs qui réaniment la filière hydrogène. L'essor de l'hydrogène est incontestable, ce sont plus de 30 pays qui ont une stratégie hydrogène et des projets internationaux pour développer les routes de l'hydrogène. Ils se multiplient ces projets. Alimenter à l'hydrogène tout type de véhicules, favoriser la transition vers des carburants alternatifs, diminuer l'impact des moteurs thermiques sur l'environnement grâce à la miniaturisation de l'injection d'hydrogène. Vous l'avez compris, il y a de forts enjeux énergétiques derrière cette dynamique hydrogène. Nous vous proposons de découvrir certaines de ces innovations nationales et internationales. Par exemple, tout à l'heure, nous serons avec une entreprise française qui a mis au point la seule benne à ordures ménagère convertie à l'hydrogène en France. Mais tout de suite, place à une autre belle invention. Les beaux jours sont là, l'envie de faire du vélo également. Et pourquoi pas faire le choix d'un vélo qui utilise l'hydrogène comme stockage d'énergie embarquée. Le tout premier vélo à l'hydrogène a été commercialisé en 2019 et il est français. Quels en sont ses avantages? On en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Pierre Forté, président de Pragma Industrie et Mobility, équipementier spécialisé des piles à combustible compact. Bonjour Pierre Forté.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Sud Radio. La spécialité de Pragma Mobility, c'est donc la petite mobilité hydrogène. Donc on démocratise l'hydrogène pour la rendre accessible à tous dans notre quotidien?
C'est exactement ce que nous voulons faire. Nous avons fait le choix d'adapter cette technologie qui est celle de Pragma Industrie, puisque notre société est conceptrice et productrice de piles à combustible ou de piles à hydrogène. Et alors que tout le secteur de l'hydrogène se penche sur l'industrie et la mobilité lourde, donc effectivement les camions-bennes, les bus et les trains et les bateaux également, eh bien nous avons fait le choix de l'autre bout du spectre de la mobilité, celle qui est légère, celle qui est urbaine et individuelle, et nous adaptons cette technologie à des vélos, à des triporteurs, à des quadricycles légers, à des scooters également maintenant.
En 2017, vous avez lancé Alpha, le premier vélo électrique commercial qui utilise l'hydrogène comme stockage d'énergie embarquée. Quels sont les avantages de ce choix d'énergie? Pourquoi avoir fait le pari justement de l'hydrogène pour les vélos?
Alors, notre mission d'entreprise est de démocratiser la technologie. Donc le but ultime pour nous est de faire rentrer l'hydrogène, ce nouveau vecteur énergétique propre, dans la mobilité de tout un chacun, donc d'aller trouver le grand public en termes de marché. Et il y a plusieurs avantages. Il y a des avantages du point de vue environnemental, puisque un véhicule léger, que ce soit un vélo ou un scooter à pile à combustible, va consommer moins de matériaux pour être fabriqué par rapport à un véhicule électrique à batterie. Il va avoir une longévité qui est meilleure et une recyclabilité qui est meilleure. Donc sur ces fondamentaux, eh bien son empreinte carbone est globalement meilleure qu'un véhicule qui utilise une batterie. Et on va limiter la prolifération de petites batteries par million. Maintenant, pour le marché du vélo électrique et du scooter électrique, on parle en millions, en dizaines de millions d'unités par an. Donc on va limiter la prolifération des batteries en utilisant une technologie plus durable et qui utilise un vecteur énergétique décarboné. Nous utilisons de l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable. Ça, c'est pour les avantages pour la partie environnementale. Et évidemment, pour faire adopter cette technologie, il faut un avantage pour l'usager. Et son bénéfice à lui, ça va être de la commodité augmentée. Un véhicule à hydrogène, et notamment les vélos, ce sont de très grandes autonomies et des temps de charge qui se limitent à 2 minutes.
Donc, il y en a beaucoup, des bornes à hydrogène, on en trouve facilement?
On n'en trouve pas facilement aujourd'hui. On a 7 en opération en France avec nos partenaires. Et notre stratégie chez Pragma Mobility est de déployer et les vélos et leur écosystème de fonctionnement. Donc on fait l'effort de déployer des bornes de recharge dans des zones urbaines. Et donc l'année prochaine, nous visons plusieurs pôles urbains en France, Toulouse, Béziers, Montpellier, Bordeaux, entre autres, Lyon.
C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas le recharger chez soi, c'est pas possible ça?
Ce n'est pas un vélo qui se recharge chez soi, c'est un vélo qui se recharge dans la rue.
Bien sûr, d'accord.
Il faut imaginer l'usage de ce vélo comme vous faites l'usage de votre voiture aujourd'hui, c'est-à-dire que l'autonomie du vélo permet d'espacer les périodes de recharge. C'est un vélo dont vous allez faire le plein une fois par mois. Donc la logique n'est pas de le recharger tous les jours chez soi, mais de le recharger une fois de temps en temps quand vous passez devant la borne, quand vous allez travailler, quand vous allez au marché.
Ouais, comme avec une voiture, ouais, c'est vrai.
Exactement. Donc c'est la recharge d'opportunité, puisque la recharge est courte, elle prend que 2 minutes. Donc vous le faites de manière opportuniste quand vous passez devant une borne. Et entre deux recharges, l'autonomie du vélo est telle que finalement vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de l'autonomie du véhicule.
Et le prix d'un vélo comme celui-ci, parce que j'ai constaté que vous travaillez donc déjà beaucoup avec les communes. Hein. Est-ce que l'idée, c'est, j'imagine, d'aller aussi vers les particuliers de plus en plus ?
Exactement, ça va être notre ambition pour dès cette année. Aujourd'hui, nos usagers sont plutôt ce qu'on appelle des usagers de flotte captive, hein, c'est-à-dire des vélos qui gravitent autour d'un point d'approvisionnement en hydrogène, par exemple de la flotte d'entreprise ou de la flotte de collectivité. C'est ce qu'il y a de plus simple pour déployer ces machines, puisqu'il suffit d'installer une seule borne à chaque fois pour nourrir toute une flotte de vélos. L'enjeu est de passer dans le grand public, et là on est sur une stratégie de déploiement de bornes différente, puisqu'il faut mailler un territoire urbain, une zone urbaine, pour que là tout un chacun puisse avoir son vélo et être libre de ses déplacements. Donc c'est beaucoup plus ambitieux en termes d'infrastructure, et c'est un projet qui va démarrer pour nous, c'est un grand pas en avant en termes de cible d'usagers, et on démarre cette année, on fait déjà des premières expérimentations qui sont prévues à Biarritz, notre ville.
La ville test.
C'est la ville test, exactement. Et l'enjeu, comme je vous le disais, est d'aller mailler des zones urbaines dès 2023, les principaux pôles urbains que je vous ai cités précédemment, pour aller chercher effectivement l'usager particulier. Et en termes de prix, puisque ça c'était votre question,
oui.
Les gens se demandent combien coûte ce vélo. Il y a 2 modèles économiques. Un qui est un modèle de vente. Si on vend le vélo, il est à 4 690 € aujourd'hui. Et on essaie de faire basculer ce modèle de vente dans un modèle locatif. La location longue durée, parce que c'est à l'avantage des usagers et c'est à l'avantage de l'environnement. Quand Pragma Industrie vend, ou Pragma Mobility vend un vélo, eh bien nous transférons la responsabilité de la fin de vie de la machine à l'usager. C'est dans notre intérêt, à nous, de faire de la location longue durée, parce que ça nous incite à faire des produits de très grande longévité pour qu'ils soient loués longtemps, en fait. Et on est responsable du recyclage de ces machines. Donc on est dans un cycle de remanufacturing, c'est-à-dire quand on récupère des vélos après un cycle de location, on réutilise les composants pour faire des vélos neufs. Et c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon pour le modèle économique, oui. Puisque notre objectif est d'avoir une offre à 89 € par mois, évidemment, pour l'usager tout inclus. Oui. C'est-à-dire le vélo, l'entretien de ce vélo et un accès aux bornes illimité. C'est-à-dire consommation d'hydrogène illimité.
Une sorte de, leasing, sans l'achat au bout. On loue son vélo avec tous les avantages et tous les services qui vont avec, c'est ça ?
Exactement. Et qui plus est, c'est comme si vous louiez votre voiture, comme ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Donc vous louez votre véhicule en leasing avec l'entretien inclus. Mais en plus, c'est comme si le concessionnaire vous disait, mais en plus, avec la location de votre voiture, vous avez accès aux pompes à essence de manière illimitée.
Ça, c'est pas mal. À vous écouter, on arrive à la fin de notre entretien. Mais juste, c'est vrai que ce secteur du vélo, il va connaître encore de grands bouleversements quand on vous écoute. Et c'est une première mondiale. Donc j'imagine que c'est extrêmement stimulant pour votre entreprise, pour Pragma Mobility.
Pour mes équipes, pour notre entreprise, oui. C'est extrêmement motivant de présenter des véhicules où tout un chacun peut se projeter dans l'usage du véhicule et se dire ce vélo-là, ce scooter, il pourrait être dans mon garage et c'est un véhicule à pile à combustible. C'est le futur énergétique, c'est le futur de la transition énergétique et ça peut être d'ores et déjà chez moi dans mon garage. Donc ça, c'est très très motivant parce qu'on a effectivement beaucoup de gens qui nous disent quand est-ce que j'habite à Bordeaux, j'habite à Paris, j'habite à Lyon, quand est-ce que je pourrais en avoir un ? Et donc, on sent cette appétence et ces transformations qui arrivent. Et c'est la plus grande des motivations pour nous.
Merci beaucoup, Pierre Fortet. Je rappelle que vous êtes le président de Pragma Industrie et Pragma Mobilité. Je vous souhaite une très,
merci
très bonne journée. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Il n'y a pas que le premier vélo H2 qui est français, mais également la benne à ordures qui fonctionne à l'hydrogène. On en parle dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France avec ces entreprises qui réaniment la filière hydrogène. Nous allons maintenant au Mans découvrir justement comment la collecte de déchets et le nettoyage de voiries se fait grâce à une benne à ordures ménagère convertie à l'hydrogène, première en France. On en parle tout de suite, c'est dans C'est ça la France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Christophe Bigre.
Bonjour.
Vous êtes directeur développement produits stratégiques de CEMAT. Alors, vous avez CEMAT ou CEMA, j'espère que je le prononce bien.
CEMAT, vous avez parfaitement prononcé.
Bon, très bien. Alors, vous avez mis au point chez CEMAT le premier camion poubelle à hydrogène.
Oui, alors c'est un développement de notre groupe, hein, on a l'avantage de faire partie d'un groupe européen qui s'appelle Zolaire, mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul véhicule de collecte de déchets qui fonctionne à l'hydrogène en France, et c'est nous qui l'avons fourni. Alors, juste une petite correction, il tourne actuellement chez le client qui a été le premier, je dirais, à lancer cette consultation et à acquérir un véhicule à hydrogène pour la collecte des déchets. Donc c'est la communauté de communes de Touraine-Vallée de l'Indre.
Ah, très
même
bien.
Même si le véhicule a tourné au Mans à l'issue du symposium de l'année dernière, le véritable utilisateur aujourd'hui, voilà, c'est Touraine-Vallée de l'Indre, donc en Touraine.
Alors au bout d'un an, quel bilan vous dressez
Au bout d'un an, pour l'instant, on va dire que le véhicule est en phase de démarrage parce que la station n'était pas opérationnelle, ce qui montre également la complexité d'un projet hydrogène global. Donc, même si le véhicule était disponible l'année dernière à tourner lors de différentes manifestations, il n'est réellement en service que depuis ce mois-ci, en fait. Donc, on va attendre un petit peu le retour en exploitation sur la Touraine-Vallée de l'Indre. Par contre, on en a 19 autres qui tournent en Europe. Donc, on est sur un total de 20 véhicules. Donc, on a d'autres véhicules qui tournent, eux, depuis, je dirais, plus d'un an maintenant sur d'autres collectivités européennes.
Alors, vous êtes content de cette première année ?
Bah, écoutez,
d'un point de vue environnemental déjà, parce que c'est le principal objectif.
Oui, alors on a les mêmes arguments que Pragma Industrie ou d'autres industriels pour l'utilisation de l'hydrogène. En fait, un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique, donc qui fonctionne avec tous les avantages de l'électrique, mais avec une autonomie supplémentaire que lui confère l'hydrogène. Donc ça a pour objectif, en fait, de se rapprocher de l'autonomie d'un véhicule thermique. Voilà, mais avec les avantages du silence et du confort qu'offre l'électrique. Donc globalement, les personnes les plus favorables et les plus satisfaites, c'est principalement les utilisateurs.
Et au niveau des collectivités, alors comment elles accompagnent justement cette innovation, cette transition énergétique ? Vous avez le sentiment qu'elles sont intéressées par ces nouveaux types de bennes à ordures ?
Oui, alors il y a beaucoup de dynamisme au niveau des collectivités françaises sur ces dossiers-là. Donc, historiquement, les bennes à ordures et les bus sont toujours en première ligne sur les innovations au niveau des motorisations. Donc, là, aujourd'hui, on compte pas moins d'une soixantaine de projets au niveau national sur lesquels nous travaillons. Et il y en a quelques-uns qui sont déjà très avancés et on aura le plaisir de relivrer d'autres bennes à ordures à hydrogène à la fin de cette année en Vendée. Voilà, notamment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui fait partie d'un syndicat de l'énergie qui est très dynamique.
Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est avant tout les utilisateurs qui sont contents. C'est quoi le principal avantage, c'est-à-dire pour eux ? C'est quoi ? C'est moins bruyant, c'est ça ? C'est beaucoup plus, c'est moins pénible justement en termes de nuisances sonores ?
Oui, c'est le premier constat qui est fait, notamment, vous citiez Le Mans tout à l'heure, qu'ils l'ont testé pendant une quinzaine de jours, l'année dernière. Le premier constat des utilisateurs à l'arrivée, ça a été effectivement tout de suite, une amélioration du ressenti des conditions de travail. Donc ça va être principalement dû au fait qu'il n'y a pas de bruit, donc pas de moteur thermique, et également à l'absence de vibration. Puisqu'on n'a pas un moteur qui va en permanence vibrer avec un régime moteur. Donc les opérateurs étaient très agréablement surpris, parce que la première crainte qui vient à l'esprit, souvent, c'est d'avoir un matériel qui fonctionnera moins vite ou moins bien. Donc un véhicule hydrogène, c'est un matériel qui fonctionne comme n'importe quel matériel thermique, donc avec les mêmes performances, les mêmes vitesses de déplacement, les mêmes capacités à compacter, à prendre des poubelles, tout simplement, mais avec un confort qui est bien supérieur au quotidien.
Alors après, le problème, c'est la technologie qui est encore chère aujourd'hui, elle est coûteuse.
Oui, alors elle reste coûteuse parce qu'on est encore sur des phénomènes de petite série. Quand je disais tout à l'heure que nous avions 20 véhicules qui tournaient en Europe actuellement, il faut savoir que si on ramène ça au marché européen, c'est une goutte d'eau dans un océan. Bon, comme je disais tout à l'heure, on est déjà passé par différentes phases d'innovation au fil du temps. Donc c'est le début, c'est le démarrage. Voilà, ça va monter progressivement en puissance. On en a déjà lancé 100 autres en fabrication pour alimenter les marchés européens et le marché français sur les deux prochaines années. Donc ça monte crescendo, mais ça continue à progresser et on espère que ça progressera très vite avec, on va dire, un équilibre au niveau des années 2026-2027.
Mais c'est, j'imagine, une fierté pour les équipes d'être la première ville et le premier pays justement à se lancer dans justement ces bennes à ordures nouvelle génération.
Bah, à la pointe de l'innovation, c'est toujours une fierté pour un industriel. Bon, après, ce qu'on oublie souvent de regarder, c'est que c'est des années et des années de recherche et de développement. Et
combien d'années de recherche et de développement, justement ?
Alors, c'est 5 années de recherche et de développement, et donc c'est plus de 1 million d'euros de mis sur la table pour faire ces recherches et développements. Donc ça, en général, on oublie de le dire.
Mais alors, du coup, aujourd'hui, le principal objectif, c'est de continuer à être les meilleurs ambassadeurs de ces nouvelles générations de Ben Ardur et de convaincre un maximum de pays européens de vous suivre.
Exactement. Alors déjà, on a la chance, aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui tourne en France, hein, parce qu'on parle beaucoup de projets, hein, il y a beaucoup de villes qui font des effets d'annonce. Mais la réalité du terrain, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'un seul matériel qui tourne sur le terrain. C'est celle qui tourne donc en Touraine. Donc ça, c'est déjà une première fierté. Et maintenant, c'est la possibilité d'emmener d'autres clients, d'autres collectivités locales, pour voir comment ça fonctionne, voir quel est le ressenti des opérateurs, et leur montrer qu'on n'est plus dans les phases de recherche et développement, mais qu'on est maintenant dans le concret, et qu'on est prêt.
Surtout que vous faites partie d'un groupe à dimension européenne, hein, vous ne l'avez rappelé. Donc j'imagine que ça aussi, c'est une vraie plus-value pour l'entreprise.
Tout à fait, parce qu'on bénéficie, on va dire, du support financier d'un groupe. Même si notre entreprise sur le marché français pèse plus de 100 millions d'euros, c'est vrai que quand on fait des recherches et développement de cet ordre-là, faire partie d'un groupe qui pèse plus d'un milliard d'euros sur le marché européen, clairement, ça nous permet d'avoir les reins solides et de supporter ces recherches et développement et de garantir aussi aux collectivités locales la pérennité de notre entreprise et donc la pérennité du service qui va avec.
Merci beaucoup Christophe Bic. Je rappelle que vous êtes directeur développement produits stratégiques de Semat. Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie de nous avoir permis d'en parler. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Au revoir. Allez, il est temps d'aller nous balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cessa la France avec Thibaut le French Trotter.
On retrouve Thibaut qui va nous faire découvrir un vignoble qui est aussi un véritable havre de verdure entre Cannes et Saint-Tropez.
Et oui, à télé aujourd'hui, j'ai la chance de découvrir le Clos des Roses, un magnifique vignoble sur les terres de l'Estérel, du côté de Fréjus, dans l'est du Var. Et je suis avec Marjorie qui s'occupe des visites. Bonjour Marjorie.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce domaine? Est-ce qu'on peut résumer un peu le concept?
Oui, alors le Clos des Roses est un domaine qui est âgé de 50 ans et qui a été repris en 2006 par les propriétaires actuels, la famille Barbero. Donc ils ont vraiment voulu faire de ce vignoble une offre œnotouristique complète en proposant un hôtel-restaurant avec une petite bastide de charme, avec évidemment la cave à vin où on vend les trois couleurs, hein, en blanc, rosé et rouge. Notre appellation Côte de Provence, mais aussi les vins de Pays des Morts, parce qu'on a la chance d'avoir un terroir très riche sur le vignoble qui nous permet de produire ces deux appellations différentes.
Est-ce que ça compte le fait d'être sur cette terre de l'Estérel ?
Bien sûr, oui, ça compte. On a le massif de l'Estérel qui se trouve juste derrière, qui nous donne donc un sol volcanique qui sert du coup à produire nos appellations en Côte de Provence.
Alors comment se passe la visite quand vous accueillez des visiteurs ? Qu'est-ce que vous leur montrez ?
Alors nous, on a deux formules de visite. On a les visites libres. Donc là, les visiteurs sont amenés à se balader librement sur le domaine, sans guide. On leur donne un petit plan explicatif. Ils font le tour des parties extérieures premièrement. Donc on a toute une partie potager, qui d'ailleurs, tous les fruits et légumes sont servis au restaurant. On a une très jolie petite chapelle également sur le domaine. On passe par les vignes, donc on regarde selon la saison, l'époque de l'année où les visiteurs viennent, ils voient l'évolution de la vigne. Oui. Ensuite, dans les caves. De là, pareil, s'ils sont un peu chanceux, ils ont la chance de rencontrer l'équipe cave pour expliquer un petit peu le processus de vinification. Et ensuite, on termine par une dégustation.
On peut faire un petit bout de visite ?
Bien sûr.
Allez, je vous suis. Alors pourquoi le Clos des Roses ?
Le Clos des Roses, c'est un hommage à la maman du propriétaire qui s'appelait Rose. Donc ils ont rebaptisé le domaine comme ça pour sa maman.
Voilà, c'est peut-être aussi en référence au rosé peut-être ?
Exactement, oui, c'est vrai que ça fait un petit peu aussi la connotation avec nos vins. Donc blanc, rosé, rouge et les roses qui sont très présentes sur le domaine en trois couleurs. Ah ben, on a Alexandre là, le jardinier dans le potager, quelle chance.
Bonjour, qu'est-ce que vous faites alors ? Qu'est-ce que vous plantez ?
Pour l'instant, rien dans le potager. On a préparé nos semis pour les légumes de saison. Tomates, poireaux, tout pour faire la ratatouille.
Donc on est au cœur des vignes. Alors quels sont les cépages ?
Alors nous, sur le domaine, nous avons Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan, Rolle, Viognier, Bon, je crois que c'est tout.
C'est déjà pas mal.
Donc là, sur toute cette partie-là devant le vignoble, on a nos cépages en vin de Pays des Morts. Donc ça, ce sont des jeunes vignes qui ont été plantées il y a 2 ans. Donc il faut 7 ans pour que la vigne produise.
Vous misez vraiment sur l'avenir ?
Tout à fait, oui. Surtout qu'on passe en bio. Nous sommes en conversion bio depuis 4 ans déjà. Il faut 4 ans pour se revendiquer réellement bio. Donc le millésime qui est 2022, qui sera récolté au mois d'août, sera 100% bio.
On va finir par la cave ?
Bien sûr, on va finir à la cave. Voilà, donc là on arrive dans un premier espace qui est l'espace de stockage, là où lorsque le vin est mis en bouteille, il est encartonné et stocké ici. Et quand on passe la porte suivante, on arrive vraiment au cœur du vignoble, donc la cave. Et voilà, on sent un petit peu les odeurs, on appelle ça la part des anges.
La part des anges.
Là, donc nous avons des cuves qui sont vides, puisque tout a été mis en bouteille du millésime 2021. Et qui attendent impatiemment les nouvelles récoltes du millésime 2022, du coup qui se fera fin août, début septembre. On peut encore attendre un petit peu, mais en attendant, on peut toujours déguster le millésime 2021 en blanc, rosé et rouge, selon vos préférences.
Consommer avec modération ?
Mais oui, à consommer avec modération, tout à fait. C'est important, parce que là, le but d'alcool est dangereux pour la santé.
Ouais, on l'a dit. Merci beaucoup, Marjorie.
Merci à vous Thibaut.
Voilà Nathalie, fin de ce reportage. Bonne semaine, bon dimanche.
Merci Thibaut. Pour plus d'informations sur la visite, il y a un site, hein, clauderose.com. Merci Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine.
Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On arrive à la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien et passez un bon dimanche.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.